On est aujourd'hui le mardi 30 Tishrei, on est le 13 octobre et le cours sera aujourd'hui pour la réfoua chez Lema et une bonne délivrance pour Esther Bat Rivka. Et on est donc arrivé au chapitre 26. On va le reprendre. Je ne sais pas si on avait commencé ou pas, mais comme de toute façon il y a eu une interruption de pratiquement 3 semaines, 1 mois. Donc, Baram Kegonda Tsarir Leoud Eklal Gadol. Il y a donc un principe fondamental dont il faut se rappeler, il faut connaître, il faut comprendre ce principe. Kikemo Shenitzachon Enatsar Davar Gashmi. On sait que dans ce monde matériel, dans notre monde, quand il y a deux personnes qui sont en conflit, qui s'opposent l'une à l'autre, deux armées, deux individus, deux pays, deux sociétés, deux économies, peu importe. Donc dès qu'il y a conflit entre deux entités, Amitavkim ze imze, et que chacun essaye de faire tomber l'autre, la pil ze etze, que chacun essaye de faire tomber l'autre, ine ima echad ube atzlut ukvedut, s'il y en a un des deux qui est plus paresseux, plus lourd, plus triste, Yenutsar, il est sûr qu'il perdra, Bekal, facilement, Vaipol, c'est lui qui tombera, Gam im ugibor yoter mechavero, même si physiquement ou matériellement ou peu importe dans quel domaine, il est plus fort que l'autre. Kachamamash, exactement de la même manière, Benitzachon a Yetzer, dans le combat contre le Yetzer, contre le mauvais penchant, il est absolument impossible de vaincre le Yetzer lorsque l'on est paresseux et lorsque l'on est triste. Kaved dans le sens de tristesse. Il me semble qu'on avait déjà commencé ce texte-là. On l'a fait, hein? Ok, c'est pas grave. On va continuer alors. Ça, on l'a fait. Anim shachot me atzvut, comme ça faisait un mois, je ne me rappelais pas exactement. Et donc, la lourdeur, la tristesse provient, me atzvut, de la tristesse, pardon, la paresse et la lourdeur proviennent de la tristesse, mais timtum alev, et du fait que le cœur est fermé, qui évène comme une pierre, qui y met au contraire, pour arriver à vaincre, il faut zrizout, il faut être vif, et cette vivacité qui donne l'avantage jusqu'à la victoire, Anim Shechet proviennent mes simcha de la joie, ou petit chatalev qui ouvre le cœur, veta arato, et qui lui permet justement d'atteindre sa pureté. C'est intéressant, ça c'est une notion qu'on a déjà souvent vue. Le mot impureté en hébreu vient du même mot que le mot qu'on vient de lire, timtum alev, cheder atum. On a tous un cheder atum, c'est-à-dire la chambre fermée mot à mot. Celle qu'on ferme quand on reçoit des missiles. Et le mot Touma vient du même mot Timtum. C'est-à-dire quelque chose, le cœur il est fermé. C'est pour ça que quand après il parle de la joie qui ouvre le cœur, automatiquement il fait entrer la notion de Tahara, de pureté. Parce qu'un cœur ouvert, quelque chose qui est ouvert est pur, quelque chose qui est fermé est impur. Mikol Nidnu Daga, mais pour ça. Pour arriver, c'est tout à fait providentiel ce texte, on l'a pas fait exprès, parce que je ne me souviens même plus si on était là ou pas. Mikol Nidnoud, mais pour pouvoir avoir un cœur qui s'ouvre et un cœur pur, qui te donne donc cette vivacité, cette chayout qui te permet d'affronter toutes les difficultés, tous les obstacles extérieurs et intérieurs et de les vaincre, il faut pour ça que ton cœur soit purifié, Mikol Nidnoud, de toute trace de tout zeste, d'aga, de souci, ve'etsev be'olam, de toute forme de souci, d'inquiétude et de tristesse courante dans ce monde. On va continuer encore un petit peu. Umash et katouv, et bien qu'il y ait un verset qui dit bechol etsev yemutar, bien que le verset semble dire que motamo etsev, que la tristesse a un avantage, pirouche, c'est-à-dire chez Yeze Itaron ou Maala Mise, il semblerait d'après le verset, c'est un verset dans Michelet, Berchol Etsev Yemutar, le roi Salomon dit que quelle que soit la forme de tristesse, elle apporte toujours un certain avantage. Donc, le texte, le maître s'étonne. Ça veut dire, comment on peut avoir un verset qui dit que la tristesse apporte un certain avantage? Il dit, iné, au contraire, si tu lis bien ce verset, tu le comprends dans son contexte, tu vas t'apercevoir que la traduction littérale est très très dangereuse. Parce que, adraba, bien au contraire, milachonze, si tu comprends bien ce que veut te dire ce verset, mashma, tu comprends de là, shea etsev mitzadatsmo, que la tristesse en tant que telle, en bo maala, elle n'a, elle, aucun avantage, elle n'apporte aucun avantage. Rak, simplement, quand il est dit Bechol etsev yemutar, ça veut dire que de la tristesse doit sortir un avantage. Comme il est dit yé, le problème c'est que nous, bon, comme on n'a pas la finesse, la subtilité de l'hébreu et surtout de l'hébreu biblique, on passe complètement à côté du sens réel des choses. Mais le verset, dit-il, ne veut pas dire que la tristesse en soi est bonne, parce que sinon on aurait dit Bechol etsev yesh mutar, ou on aurait dû dire à etsev utov, on dit yé mutar, il sortira quelque chose de bien. Mashma, de là que la tristesse en tant que telle n'est pas ce qui est bien, mais qu'elle est parfois le moteur, la matrice de quelque chose qui va être bien. Ve'aynu asimcha. Il y a des tristesses qui engendrent la joie. Bien qu'aussi le mot joie ici est très très très, on pourrait dire pas approprié, c'est pas, simcha ne veut pas dire joie comme on le sait, mais on va expliquer dans quelques instants. En tous les cas, si la tristesse amène la joie, alors on dit Bechol etsev yé mutar, quelle que soit la tristesse dans laquelle tu te trouves, bien que la tristesse en tant que telle bevadai n'est pas bonne, destructive, elle ferme le cœur, elle rend impur, elle t'enlève toute ta chayou, toutes tes forces, elle te désarme face à ton ennemi, réel ou spirituel, le Yetzer. Mais quoi qu'il en soit, dans chaque tristesse, et c'est ce que nous dit Shlomo, bien que, c'est ça le paradoxe, que la tristesse en tant que telle est négative, malgré tout, tu peux la transformer en moteur qui va justement produire l'effet contraire, c'est-à-dire la simcha qui, elle, au contraire, ouvre le cœur et amène toutes les forces de la vie. Ve'aynu, c'est ça le ezeyitachon, de quel plus on parle, qui est engendré par la tristesse. Aynu asimcha, c'est la joie, à amitit, réelle, authentique, bashem elokav, c'est-à-dire que la tristesse est censée t'amener vers la joie authentique qui est bashem elokav, abba achar etsev, qui vient après la tristesse à amiti. Après même une vraie tristesse, tu peux arriver à cette vraie joie. Leitim mezumanim, alavonotav, bemar nafsho, velen nishba. Lorsque tu penses, j'arrête encore une phrase et on arrête. Lorsque tu prends conscience au point que ton cœur se trouve brisé, shalize nishbera roar, donc mezumanim alavonotav, donc tu es triste de toutes tes fautes, bemar nafsho, tu ressens une amertume dans ton nefesh, velev nishbar, encore une fois, jusqu'à ce que ton cœur soit brisé, shalie deze, et grâce à la brisure de ton cœur, quand tu prends conscience de tes fautes, nishbera ruar atuma, à ce moment-là, se casse, tu brises en même temps le ruar de la tuma, ça veut dire ce sentiment d'être enfermé, d'être emprisonné, d'être becheder atum, Vesitra achara, qui est justement ces forces contraires, ou Mechitsa shel Barzel, qui ont construit en toi une véritable muraille de fer, Amafseket, qui te sépare, Beino le ben Avusheva Shavim, qui te sépare d'Hachem. Point. Alors évidemment, je dis ce texte-là, si je l'avais choisi exprès, vous auriez dit, il l'a fait exprès, vous avez tous vu sur le vif que je ne savais même pas qu'on était là, et je ne savais même pas ce qu'on allait dire, je n'ai même pas eu le temps de préparer. Ça, ça ne se dit pas, mais c'est vrai. Et donc, parce que je ne sais plus du tout où on était. Et c'est évident que quand on tombe sur ce genre de texte, il y a différentes manières de le prendre. La manière classique, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est dû à nos fautes. Et donc, si on prend conscience, finalement, du fait qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, Et au lieu de s'attrister sur les malheurs, attriste-toi sur tes fautes. Et quand tu t'attristeras sur tes fautes, à ce moment-là, tu casseras finalement toutes les forces contraires qui s'acharnent sur toi pour te détruire. Des fois, c'est des forces contraires qui sont encore uniquement sous leur forme spirituelle, ce qu'on appelle le Yetzer. Des fois, le Yetzer, il s'incarne dans un corps. Il est l'ennemi qui est en face de toi. Ça dépend de la gravité de la faute, comme on le sait. Le Ari HaKadosh et d'autres textes expliquent que selon les fautes et selon les gravités de la faute. Pour l'instant, je vais parler leur langage à eux. Mais selon les fautes et selon la gravité de la faute, alors on crée des démons. Et les démons, c'est eux qui finalement, après, viennent t'attaquer. Bon, ils ne viennent pas forcément attaquer celui qui les a créés, parce que quand Israël arrive, ils se lasaient. Et des fois, on sait très bien, je fais exprès, je vais être très choquant. Alors là, maintenant, je rentre dans le tas, c'est lui qui a commencé avec ces histoires complètement idiotes. Mais donc, on va rentrer dans le tas, on va parler comme lui, puisqu'il fait de la religion. Alors donc, Israël, quand Israël a eu Mzélazé, des fois, je veux dire, il y a un décret sur le Ham Israël que peut-être 50 familles ou 100 familles... 100 couples devraient partir et laisser peut-être donc 200 orphelins. Alors qu'est-ce que va faire Hachem? Il va prendre un couple extraordinaire, la lumière d'Israël, la crème de la crème, et le fait que la crème de la crème va être prise, alors ça va épargner voilà, parce que c'est évident que quand un chien a très très faim, si tu lui jettes des os qui n'ont pas tellement de moelle à l'intérieur, à plus forte qui n'ont pas de chair sur eux, ben le chien il va pas se calmer, mais si tu leur jettes rien qu'un seul bon os, et ben le chien il va te remercier, il va te lécher après, il sera content. Donc tu as sauvé des centaines d'os moins bons en donnant un seul os. Donc au lieu finalement, donc nos maîtres vont beaucoup plus loin et ils nous disent, Monsieur Attali, vous pouvez ouvrir le masgan s'il vous plaît, et regardez, non, vous ne pourrez pas là-bas, c'est dans mon bureau, sur mon papier de bibliothèque, il y a la poignée, vous pourrez, vous mettez tous les masques d'anime, parce que je vois que les gens ont très chaud, mais là-bas. Et donc, je discutais justement avec quelqu'un hier soir, très tard, et bon, on discutait comme tout le monde un petit peu du Matsav ici, je dis encore une fois, ce cours il est providentiel, mais bon, on improvise, on ne sait pas trop où on va aller. Et puis... ça, c'est des choses que, surtout qu'on ne dit pas devant un public aussi nombreux que vous, encore moins quand c'est enregistré, parce qu'on n'a pas le droit. Mais parce que c'est des choses qu'on doit garder secrètes. Je disais, c'est quand même incroyable que pendant la même période où tous les jours, encore ce matin, etc., et c'est dans cette même période qu'il y a deux jours, ils viennent de révéler des choses. Bon, peut-être qu'on ne veut pas savoir, on n'a pas envie... On préférait ne pas entendre, mais on va savoir pourquoi ça a explosé d'Afrika il y a deux jours. Il nous révèle qu'à Tel Aviv, Rehov Alembi, il y a ce qu'on appelle des cafés-bars où il y a des messibot mines là-bas. Ça veut dire ils en ont fermé un il y a deux jours. Messibot mines, ça veut dire on se rencontre là-bas pour coucher les uns avec les autres devant tout le monde, quoi, des orgies publiques. Mais fermées, quoi. Et donc ils en ont fermé un hier, il y a deux jours, parce qu'il y a une jeune fille qui dit il ne m'a pas demandé jusqu'au dernier moment si j'étais d'accord, donc je me suis fait violer. Donc, pourrait être là-bas, ma pauvre idiote. Donc ils appellent ça, il paraît qu'il y en a plein en Israël, et surtout à Tel Aviv, ce qu'on appelle des bars Messibot Min. Ça veut dire on se rencontre là-bas, on commence à danser, à en boire, et puis après ça finit tout le monde tout nu, quoi. Excusez-moi, c'est pas un rabbin qui doit parler comme ça. Je dis, c'est incroyable, dans la même semaine où on voit que... Alors évidemment, c'est horrible ce que je dis. Hein. La semaine prochaine, j'ai personne à mon cours. C'est fini. Mais Alors, si le Ari HaKadosh, ou si le Tanya, si les maîtres sérieux, les vrais, pas moi, il dit, oui, je veux dire, c'est marqué clairement dans le Zohar, dans la Kabbalah, que toute relation interdite, c'est une énergie de vie qui sort. Et cette énergie de vie, elle n'est pas malheureusement perdue, comme on pourrait croire avec nos yeux de chair. Ça crée des énergies vivantes qui ont besoin après de s'incarner dans une enveloppe. Et ces énergies vivantes, elles vont s'incarner, elles vont chercher sur Terre ce qu'il y a de plus misérable, ce qu'il y a de plus horrible dans la génération, et nos voisins. Et ces énergies vont s'incarner en eux, et, ça va, et c'est ça les monstres, c'est des démons, je veux dire. Un gosse de 13 ans qui poignarde un gosse de 13 ans. Des démons, c'est-à-dire que c'est évident que ce ne sont pas des humains selon nos critères à nous. Mais d'où ils sortent? D'où ils sortent? Alors la Kabbalah va expliquer que d'une certaine manière, une grande partie, c'est nous qui les créons. Parce que à chaque fois, entre autres, c'est pas que, mais c'est l'une des causes principales, une relation interdite, et l'énergie qui sort, elle réclame son dû. Tu m'as fait sortir, maintenant je veux une enveloppe. Mais comme elle ne peut pas avoir une enveloppe saine dans les deux sens du terme, parce que évidemment que sortie dans une poubelle, elle ne pourra après s'incarner que dans une poubelle, alors on va lui donner une poubelle, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs millions. Et donc on va lui donner une poubelle, et qu'est-ce que va faire cette poubelle? Comme cette énergie, elle est très 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 en colère d'avoir été créée, de devoir vivre maintenant à l'intérieur d'une poubelle humaine, alors elle va se venger. Elle va sortir un couteau et elle va aller attaquer ceux qui l'ont créée. C'est horrible. Alors, qu'est-ce que dit le Tanya? Bon, lui, je veux dire, l'avantage que lui, il a, si ça avait été quelqu'un qui vit à Miami ou à Los Angeles ou à Anvers, j'aurais pris le livre, je l'aurais déchiré. Je lui dis, de quoi tu parles, toi? Tu sais ce que c'est la souffrance, toi, pour parler? Le problème, c'est que lui, il a vécu les pogroms, il a vécu les Cosaques, il sait ce que c'est la souffrance des Juifs. Lui. Donc, il est autorisé à parler. D'accord? On lui donne ce crédit-là. Donc, juste, je continue. Donc, il dit la chose suivante. D'accord. Au lieu d'être dans cet état de dépressif et de tristesse dans laquelle on est tous en ce moment, et on n'a plus envie de se lever le matin, on n'a pas envie d'ouvrir le journal, qu'est-ce qu'on va encore entendre, qu'est-ce qui va nous arriver encore, et le prochain ça sera qui, et quand on marche dans la rue on se retourne 10 fois pour savoir si on est suivi ou pas, quand on est en voiture et qu'on est à un feu rouge, vous savez qu'il faut absolument, c'est une ordonnance, il faut enlever la ceinture, surtout si vous avez la fenêtre ouverte tant que vous êtes à l'arrêt. Pourquoi? Imaginez-vous que quelqu'un arrive par derrière, et donc au moins si vous n'avez pas la ceinture, vous pouvez... Donc, et puis maintenant il commence à circuler dans tous les journaux officiels, il commence à circuler maintenant, voilà le registre de ce qu'il faut faire quand vous êtes attaqué. Maintenant, si jamais vous prenez un couteau, n'importe quoi. Alors c'est vrai, ici aussi on ouvre maintenant, j'ai pas dit n'importe quoi, mais on ouvre aussi maintenant à partir de samedi soir prochain un set de self-défense, surtout pour femmes, etc. Donc les rudiments de ce qu'il faut savoir faire quand on a quelqu'un qui vient avec un couteau. Et on va le faire ici chez nous aussi, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vrai. C'est 4 leçons avec des spécialistes qui nous montrent quels sont les gestes instinctifs. Bon, peu importe, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, on nous met dans une ambiance finalement de le Yetzara, il sait quoi faire. Les fêtes n'étaient pas finies, que déjà les deux couronnes de notre peuple sont parties, ont laissé 4 orphelins. Et puis après ça continue, ça n'arrête pas, on n'a même pas le temps de s'arrêter de pleurer sur les premiers, qu'on ne sait même plus dans quel Shiva il faut aller, puis on va nulle part parce que on ne va pas passer notre temps à aller dans les Shivas des uns et des autres. Mais on est tous dans un état très très dépressif, en tout cas j'espère, les humains parmi nous, ceux qui ont encore un cœur disons. On est tous très 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 très, très dépressifs, on n'a pas la forme qu'on a d'habitude, exactement ce que dit le texte. Atzout, kvedout, et entre nous, ça ne doit pas se dire, d'accord? On n'a encore rien vu. Je peux vous garantir que l'année qui nous attend, mais on n'imagine même pas. Mais alors vient le Tanya. Encore une fois, si ce n'était pas un juif ukrainien qui sait ce que c'est les Cosaques et qui sait ce que c'est les pogroms, je dirais, écoute, va te faire voir, tu ne m'intéresses pas. Mais comme c'est quelqu'un qui sait ce que c'est la souffrance, donc quand il parle, je lui donne le crédit de savoir de quoi il parle, il vient lui dire, écoutez, arrêtez d'être dans cet état dépressif, lourd, et inquiet, avoir des daagotes, etc. Finalement, il n'y a qu'un seul domaine dans lequel on doit, oui, avoir la tristesse. Et si on a cette tristesse-là, celle-là, elle va nous amener à la vraie joie. D'accord? Et c'est ce à quoi fait allusion le roi Salomon lorsqu'il dit « Bechol etzev yemutar » il y a des tristesses qui peuvent déboucher sur quelque chose de bien. Si tu prends conscience que toute cette tristesse ritsonite n'est que l'extériorisation d'une tristesse que tu n'as pas su avoir Et c'est parce que tu n'as pas su avoir cette tristesse à temps que maintenant elle s'habille dans quelque chose qui lui te rend triste. Parce qu'évidemment, nous on n'est pas sensible à la tristesse des fautes, mais on est hyper sensible à la tristesse d'un enterrement d'un jeune couple qui laisse quatre orphelins. Et donc, puisque tu n'as pas pu être sensible à la vraie tristesse, eh bien, tant pis pour toi, tu seras sensible à une tristesse qui, j'espère, dit le texte, te renverra finalement à la vraie tristesse. Sois triste pour tes fautes. Et si tu es triste pour tes fautes, eh bien, comme ça, tu arriveras enfin à casser le mur qui te sépare d'Hachem. Parce que c'est absolument évident que si Hachem accepte qu'un jeune couple laisse quatre orphelins, c'est évident qu'à ce moment-là, Hachem était de l'autre côté du mur. Parce que forcément, s'il était du bon côté du mur, il aurait sauvé ce couple. Donc il était du mauvais côté du mur. On a construit, nous, une Mechitsa Shel Barzel, un mur de béton entre nous et lui. Et ben, quand tu feras tshuva sur, quand tu te mettras à ressentir la douleur de tes fautes, et ben, ça cassera la douleur de tes ennemis. La douleur, comme tu la ressens au bon endroit, elle n'aura pas besoin de s'incarner dans le mauvais endroit. C'est horrible.
Arrêtez,
je
vais
mettre mais ça, on s'en fiche. Comment? C'est. Ça veut dire quoi? Bon, je vous pose la question entre nous, d'accord? C'est vrai ou non que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de nos fautes?
Oui.
Oui ou non?
De
la politique, elle est faite. Mais la politique, elle est faite par des hommes. Les hommes, ils pensent, réagissent et s'engagent en un sens en fonction de leur patrimoine intellectuel, moral et spirituel, qui est lui-même la conséquence du comportement, etc. Donc on en revient toujours. Et je peux être d'accord qu'on vous dise c'est la conséquence des choix politiques, mais les choix politiques sont faits par des humains, pas par des machines. Et ces humains, ils mangent kasher, ils mangent pas kasher. Ils font shabbat, ils font pas shabbat. Ils sont fidèles ou pas fidèles. Ils sont des juifs exemplaires ou des juifs exemplaires. Ils sont des humains exemplaires ou pas des humains exemplaires. Comme à chaque question que j'ai demandé, vous allez répondre par la négative, bien évidemment. C'est-à-dire que non, ce ne sont pas des humains exemplaires, ce ne sont pas des juifs exemplaires, etc., etc. Donc automatiquement, donc la politique est, est la conséquence finalement de ce qu'on appelle nos fautes. Mais alors regardez,
les amis, dire que la Shoah
pourquoi c'est alors, ben alors évidemment, on va en arriver à dire que la Shoah c'est la faute, c'est la conséquence de nos fautes. Quand certains ont osé dire ça, d'autres ont dit mais c'est comment vous osez parler comme ça, même si Hachem avait, il y a une réponse très célèbre, peu importe de qui, pour ne pas faire de la pub, qui a répondu à un autre qui disait bon ben c'est ce genre de catastrophe, c'est la conséquence de nos fautes. Ce maître a répondu même si Hachem lui-même il avait convoqué le Satan pour lui confier la Shoah, même le Satan n'aurait pas su la faire. Ça dépasse même les compétences du Satan. Comment peut-on oser dire que c'est... Alors, c'est la conséquence de nos fautes. Mais alors, d'un autre côté, alors on rapporte, je comprends pas, le Talmud qui dit que le temple a été détruit à cause de la sinatrinam, ou à cause de l'idolâtrie, ou à cause de la débauche, ou à cause de... Et lire les prophètes ne nous mettent pas en garde, comme quoi les catastrophes arriveront à cause de nos fautes, etc. Et sans faire de la littérature, mince alors, ce qui nous arrive, c'est quoi? C'est à cause de nous ou c'est pas à cause de nous? Pourquoi, même si, allez, c'est à cause de nous... Mais pourquoi on n'aime pas cette approche? Pourquoi on ne la supporte pas? Pourquoi on ne la supporte pas?
On ne veut pas se mettre en question.
C'est juste, on ne veut pas se remettre en question. Mais pourquoi? Plus encore profondément.
La balance n'est pas juste. Quoi.
Comment?
La balance n'est pas juste. C'est une...
La balance n'est pas juste, vous avez raison, mais ça c'est pas la faute à Hachem, c'est parce que nous ne sommes pas capables d'apprécier la balance, parce que je suis pas sûr, je sais pas, s'il existe à Tel Aviv, peut-être, je sais pas moi, 30 ou 40 boîtes, c'est un peu des boîtes de nuit, c'est donc des boîtes d'orgie, où tous les soirs il y a des orgies, et que il y a 20 personnes poignardées, je sais pas. Et parce que nous, peut-être qu'on banalise peut-être les fautes, j'en sais rien. Attention, je parle pas forcément ce que je ressens. J'essaye de parler au nom du texte. J'ai pas dit que je l'ai compris le texte. Notre devoir, c'est de le comprendre. Et pour l'instant, on reste bête et méchant, comme lui, comme ce qu'il donne l'impression. D'accord? Parce que c'est facile ce discours-là. Ce discours, c'est un discours rabbinique classique, on le connaît tous. D'accord? Mais le problème, c'est que. Alors vous allez me dire, si je vais être encore plus bête et méchant, je vais dire, qu'est-ce que ça a à voir les 2,5 millions d'enfants pendant la Shoah avec, c'est ce que vous dites, avec les fautes de la génération? Et je peux répondre, si je veux vraiment être bête et méchant, je peux dire peut-être que nous on ne sait pas apprécier les fautes, peut-être que le fait qu'il y avait des dizaines de milliers avant la Shoah, à titre d'exemple, hein, des dizaines de milliers de commissaires juifs bolcheviques, d'accord, qui ont contraint des communautés entières à profaner le Shabbat, et que quand les hommes refusaient, ce sont des commissaires juifs bolcheviques qui tiraient dans le tas. D'accord ? Oui, des juifs. Qui tiraient dans le tas parce qu'ils étaient sûrs que la religion était le grand malheur des hommes et que pour sauver l'humanité, il fallait l'athéisme. Et ils tiraient sur leurs frères juifs dans les années 20, etc., 17 après la Révolution. Oui, on a des milliers de témoignages. Peut-être que ce sont des fautes qui sont tellement grandes que peut-être que ça crée en des accusations tellement énormes que quand le mal va exploser, il ne fera plus la différence entre un enfant, une femme, un adulte, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être oui, peut-être non, mais on ne peut pas venir avec l'argument, c'est disproportionné, parce que nous, on a aucune capacité d'apprécier la portée. On a cette histoire célèbre, le beau-père du rabbi a été arrêté par deux juifs, deux commissaires juifs. Un il s'appelait Nachmanson, l'autre il s'appelait Lulav. Et quand ils sont venus l'arrêter, pour d'abord le torturer à mort dans une cage du KGB, après le tuer, c'est eux qui voulaient avoir l'honneur de tuer le rabbi. Alors je ne sais plus si c'est Nachmanson ou Lulav, il a voulu prendre la valise truc pour aller plus vite, genre, mais il a pris la valise. Et le Rayat, le beau-père du rabbi, il l'a arrêté, lui a pris la main, il dit « touche pas ma valise ». Et l'autre, il lui a répondu « tu sais, pourtant, mon grand-père portait la valise du tien ». Et il s'avère que le grand-père de celui qui venait arrêter le Rayat était un chassid du Marash, qui était le grand-père du Rayat. Et donc, il lui portait ses valises. C'est-à-dire que celui qui est venu arrêter pour torturer à mort et tuer dans une cage du KGB, le rabbi de l'époque était le petit-fils d'un chassid du grand-père du rabbi de l'époque. Donc c'est difficile d'apprécier la grandeur, la portée, les dégâts que peuvent faire des fautes, on ne sait pas. Et ne parlons pas des juifs en Allemagne avant la Shoah, où 2 sur 3 étaient mariés avec des Christine et des Catherine. Et je ne sais pas. Donc ça, ce n'est pas un argument. L'argument qui reste, c'est encore une fois que pleurons sur nos fautes et tout s'arrangera. Pourquoi on ne supporte pas ce discours? Pourquoi? Comment? Pourquoi on ne supporte pas ce discours? Comment? Oui.
Mais de supporter, et tant mieux, des fois c'est bien pour nous qu'on soit résigné. Avali famine, c'est caché, parce qu'il y a des gens qui font des fautes. Et nous, on a cette chouva depuis 20 ans, et on essaie de se rapprocher de Hachem et de faire cette murale. Et finalement, c'est les très bons qui partent. Alors, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, même si on ne remet jamais en cause la justice d'Hachem. Hachem, il sait ce qu'il fait, donc pour éviter 50, il n'en prend que 2. Et du coup, ça fait un peu peur, même, de revenir à lui parfaitement, parce qu'on a même peut-être peur d'être parmi les 2 sur les 50. Tout ça, c'est mélangé comme c'est suffisant.
Mais je suis d'accord, mais là où je ne suis pas d'accord, pourquoi vous dites la faute des autres? Peut-être que c'est ma faute à moi aussi. Vous avez dit j'ai fait teshuva depuis X années. Mais le problème, c'est qu'effectivement, Agadol Mechavero Yitzro Gadol Mimeno, qu'on traduit aussi, plus un homme est grand et plus on est pointueux sur son Yetzerara. Il est possible que quand moi je fais du Lachonara, d'accord, c'est peut-être plus grave qu'un kibbutznik qui commet un adultère. Voilà, peut-être. Quand moi je suis un juif religieux et que sous prétexte que tel rabbin a monté une nouvelle liste politique et que je dis du Lashon Hara sur la nouvelle liste, etc., et que lui il a une barbe et moi j'ai une barbe, peut-être que c'est peut-être plus grave que les Misibot Min. Parce que là-bas il s'agit de gens qui n'ont aucune éducation spirituelle sûre, même morale, et qui ne sont abreuvés que par ce qui se passe dans le grand monde, etc. Donc peut-être que c'est mes fautes aussi. Peut-être que quand moi je dis d'un tel ou d'un tel, peut-être que j'ai dit un mot de travers à mon mari qui l'a profondément blessé, et peut-être que ça fait 15 jours qu'il a une grande douleur dans le cœur, qui dit qu'à mon niveau, c'est pas plus grave qu'un assassinat. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il faut se réveiller uniquement sur la faute des autres. J'ai pris cet exemple maintenant de ce qu'ils ont révélé Rehov Alembi et Beseder, parce que c'est incroyable qu'ils attendent juste la semaine de tous les coups de couteau pour révéler un truc pareil. Je veux dire, ceux qui ne voient pas qu'il y a certainement une allusion venant d'en haut en tous les cas. Parce que... je veux dire, si j'étais extrêmement grossier, qu'Hachem, pardon Hachem, et je vous demande pardon à vous mesdames, mais même au niveau du Mida Kenen Mida, je veux dire, tu rentres un couteau dans un endroit où il ne devrait pas être, et on va te rentrer un couteau dans un endroit où il ne devrait pas être, c'est aussi une forme de couteau, etc., vous avez compris, bref. Et donc, même l'allusion physique, elle crève les yeux, d'accord, mais encore une fois, pourquoi on ne supporte pas cette approche-là? Mais quelle est la conséquence? C'est qu'on a l'impression que ça va nous plonger dans quoi? Dans une triste... Voilà, ça va finalement nous désarmer complètement. Ça va nous plonger dans une tristesse inimaginable, un sentiment de culpabilité inimaginable. Et finalement, on est déjà suffisamment triste. D'accord? Imaginez-vous que ce discours, que je tiens quand même déjà devant pas mal de monde, et qui en plus va être sur le site, qui va écouter par beaucoup de monde, mais imaginez-vous qu'un rabbin en Israël, d'accord, ose dire, moi en vérité, bon, ça reste en cercle fermé, et puis de toute façon, je veux dire, je ne suis pas crédible, mais imaginez-vous qu'un rabbin crédible en Israël prenne la télévision ou la radio, et un grand rabbin d'Israël, et dise, d'accord, eh bien écoutez, si la même semaine que des choses droites rentrent et trous, c'est la même semaine où on nous apprend que d'autres choses droites rentrent dans des trous où ils ne devraient pas être, et que c'est une véritable cochonnerie inimaginable, et que peut-être que c'est l'allusion, mais vous imaginez un rabbin d'Israël qui parle comme ça? Mais je ne me parle même pas que le monde non religieux vont le massacrer, mais je pense que même les religieux, toute personne qui pense, dit mais arrêtez-le, mais il est malade ce bonhomme. Pourtant, ça fait 300 ans qu'on lit le Tanya, et simplement que le Tanya ou n'importe quel autre livre de Moussard, peu importe. Mais le problème, pourquoi ça ne dérange pas quand c'est dans un livre? Parce qu'on vérifie, on ne le lit pas. On ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que tu dis vraiment? Surtout que si on tombe sur ce genre de texte quand on est sur la plage, ou quand tout va bien, alors l'autre, de toute façon, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Mais tout d'un coup, je veux dire, encore une fois, c'est indirect ce que je suis en train de faire, puisque je ne savais même pas que c'était notre texte aujourd'hui. On lit ce texte en pleine situation où là, tout d'un coup, paf, mais il nous parle, mince, il parle de nous, ce texte. Il parle de nous, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Alors pourquoi on n'a pas le droit de parler comme ça? Pourquoi? Mais Shlomo Ameler, il a donné la réponse. Bechol etzev yemutar. Shlomo Ameler donne la réponse, mais le problème c'est que maintenant, regardez, la différence entre ce que dit le Tanya et ce que dirait un livre de Moussard classique, c'est que qu'est-ce que va dire le livre de Moussard classique? Toute tendance confondue. Exactement ce que je viens de vous dire maintenant en vous saoulant depuis plus d'une demi-heure. C'est à cause de nos fautes, c'est voilà, bon, etc. Faisons teshuva, pleurons sur nos fautes au lieu de pleurer sur les quatre orphelins, etc., etc. Vous vous trompez de larmes, messieurs les juifs. Pleurez sur vos fautes, peuple pécheur. Très bien. Pourquoi ce discours, il n'est pas juif. Si déjà il est chrétien, mais il n'est pas juif. Pourquoi il est insupportable? Il est tout simplement pas humain. Il est dégueulasse ce discours. Et c'est pas ce qu'il dit, je vais vous le prouver. Pourquoi? Parce que ça ne va faire que nous enfoncer encore plus et nous faire sombrer encore plus sous le poids finalement du désespoir. Or, comment a commencé ce texte? Ce texte commence en nous disant « Le désespoir est ce qui nous désarme face à nos ennemis extérieurs et intérieurs. » Donc, tu dis à quelqu'un, d'accord, qui sort d'Auschwitz et qui a laissé une femme et 15 enfants, tu lui dis, tu sais, d'accord, c'est les fautes de la génération qui ont amené cette catastrophe sur le peuple juif. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'il ait maintenant les forces de lutter contre le Yetzer Hara? Mais tu l'as enfoncé encore plus. Parce que non seulement il pleure sa femme, mais en plus il doit se dire, c'est à cause de moi. Puisque c'est ce que tu es en train de lui dire. Quand on est en train de dire, mes amis, maintenant, je reprends maintenant les choses en main. Quand on est en train de dire, d'accord, selon la manière trafiquée dont je vous ai apporté le texte, que finalement, ce couple-là a été enterré à cause des fautes du peuple juif. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en vérité? On est en train non seulement de pleurer, mais en plus de se désarmer encore plus, de s'enfoncer encore plus, de s'affaiblir encore plus. Parce que déjà j'ai la tristesse d'un couple qui reste 4 orphelins, maintenant j'ai la tristesse aussi de me dire je suis responsable. Vous voulez que je donne un exemple dans la vie concrète, d'accord? Imaginez-vous, l'Oalenu, quelqu'un qui perd un être cher dans un accident de voiture. C'est une tristesse dans laquelle on ne se remettra peut-être jamais. Imaginez-vous, c'était lui le conducteur. Et que lui s'en sort et sa femme à côté, elle meurt. Ou son enfant. Il s'en sortira jamais. Donc qu'est-ce qu'on a gagné en disant non seulement vous êtes attaqué, mais en plus c'est à cause de vous. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça y est, donc alors maintenant c'est fini. Or tout le texte a commencé en nous disant qu'il ne faut surtout pas être triste, soucieux et affaibli devant toutes les formes du Yetzer, intérieur et extérieur, parce que c'est la seule chose qu'il attend, c'est de t'affaiblir afin de pouvoir t'attaquer. Selon une explication très très connue d'un grand maître de la Chassidoute qui dit, entre autres, pourquoi la Torah a choisi comme image pour parler du mal, a choisi l'image du serpent. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois dans mes cours. Pourquoi? Parce que le serpent, en vérité, qu'est-ce qui te tue? C'est la morsure? Non, c'est ce qui met dedans. C'est le venin. Il y a des serpents qui mordent, qui font très mal, mais qui ne tuent pas. Il y a des serpents qui, eux, ne font pas très mal au moment de la morsure, ou des insectes mortels, même des fleurs mortelles qui t'attrapent, ça ne fait pas très mal, une égratignure, mais t'es mort, parce que c'est ce qui rentre à l'intérieur. Exactement de la même manière, disent nos maîtres, dans la faute, il y a deux mécanismes. Il y a la faute elle-même, qui est la morsure, d'accord? Mais il y a après le venin, qui est inhérent et conséquent à la faute, c'est l'état de tristesse, de découragement, de culpabilisation, de dégoût de toi et de la vie, qui est la conséquence directe de la faute, d'accord? Parce que généralement, quand tu as fauté, et tu ne peux pas ne pas ressentir que ce n'est pas bien, et c'est ce qui te ronge à l'intérieur. Et ça, c'est le venin de la faute qui, lui, aura ta peau plus que la faute encore. Et c'est pour ça qu'on compare la faute à un serpent, comme pour dire la morsure fait mal, mais la conséquence de la faute, l'état d'esprit dans lequel tu vas te trouver, est pire encore que la faute. Et c'est d'ailleurs la véritable raison pour laquelle le serpent te mord, pas pour entendre ton aïe au moment de la morsure, mais pour te laisser KO avec cet état de découragement après la morsure. Et c'est là qu'est le vrai combat. Donc automatiquement, si un maître vient avec tout le respect qu'on lui doit et nous dit, mes amis, eh ben, tous les poignards d'eux aujourd'hui, c'est à cause de la débauche, entre autres, même si c'est vrai, le dire comme ça, mais tu deviens le complice de nos ennemis. Puisque qu'est-ce que le serpent veut faire? T'affaiblir, te décourager. Alors maintenant, tu as complètement gagné. Viens Shlomo Ameler et il dit non. Bechol etsev yemutar. Il faut absolument transformer la tristesse. Après, je vais vous donner un exemple extraordinaire d'ailleurs dans la parasha la semaine dernière. Transformer la tristesse en quelque chose de bien. Mais Shlomo Ameler ne précise pas c'est quoi Bechol Mutar. Vient le Tanya, et c'est ça toute la grandeur de Tanya, parce que ce n'est pas marqué dans le verset ce que lui va dire. Lui comprend que le moutard, l'avantage, moutard dans le sens de Yitaron, l'avantage dont parle Shlomo Ameler, c'est que la joie, que la tristesse doit être la matrice de la joie. C'est uniquement dans cet esprit et dans ce cadre-là que la tristesse sur les fautes, puisque c'est de ça qu'on parle, sur les fautes a un avantage. Mais si la tristesse sur les fautes n'amène pas à la joie, alors évidemment que cette tristesse-là, ce n'est pas celle dont parle Shlomo et encore moins celle dont parle le Tanya. C'est-à-dire que le Tanya est en train de nous révéler quelque chose. Il existerait une prise de conscience de l'homme sur ses fautes qui soit constructrice, réparatrice et qui amène à l'état exactement à l'extrême opposé de ce que le Nahash voulait créer en moi. Vous connaissez ce phénomène? C'est quelque chose de très très haut. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a déjà gagné? On a déjà gagné que le Tanya, bien évidemment, ne parle pas de la situation malheureusement trop connue et trop classique du discours rabbinique classique qui dit, ben, on souffre à cause de nos fautes. Parce que quand tu lances un pavé dans la mare, comme ça, on souffre à cause de nos fautes et tu t'arrêtes, tout ce que tu as gagné, c'est quoi? C'est que quoi? Tu as remué le couteau dans la plaie. C'est malheureusement le cas de le dire. Non seulement le couteau est dans le corps, mais en plus tu remues bien à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as gagné? Si tu es capable de faire prendre conscience au peuple d'Israël que la situation morale et spirituelle dans laquelle il se trouve est en vérité le moteur de son salut, parce que va se passer quelque chose dans sa prise de conscience qui va faire que de cette situation dramatique, il va en sortir des forces de joie qui sont des forces de Zrizout, de Chayout, et qui vont lui donner une pêche inimaginable contre tous les obstacles qui se dressent devant lui. C'est de ça dont on parle. Mais comment qu'on arrive à une chose pareille? Comment qu'on arrive? Comment qu'on peut transformer la prise de conscience sur les fautes? Comment qu'on peut le transformer en joie? Comment c'est possible? Comment qu'on peut le faire? Comment? Mais non, c'est la conséquence. Comment qu'on y arrive? Comment?
De compenser ces formes destructives, ces formes destructrices du mal qu'on a engendrées par nos mauvaises actions, en faisant des bonnes actions et en changeant nos midotes pour amener des anges bienfaiteurs.
Très bien, ok. D'accord, mais comment qu'on y arrive? Comment qu'on y arrive quand on est écroulé dans la tristesse des disparitions, des attentats, des si, et en plus maintenant on vient de prendre conscience que c'est aussi en grande partie à cause de nous. Alors donc, c'est-à-dire que j'ai une double raison de pleurer, sur le coup de couteau matériel et sur le coup de couteau spirituel. L'un, c'est mon voisin et l'autre, c'est moi. Et si c'est pas moi qui avais commencé à donner des coups de couteau, lui, il n'aurait pas pu donner un coup de couteau. Ah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je m'en sors? Qu'est-ce que vous vouliez dire?
C'est en se concentrant sur la finalité. C'est-à-dire qu'on sait que là, le moment est difficile, mais que la finalité sur le long terme, sera positive.
C'est un peu dans cet esprit-là que je vais expliquer. La réponse, en vérité, elle est très, très simple. La réponse est très, très simple. D'accord? La réponse est très simple. Vous avez deux personnes atteintes d'une grave maladie qui vont chez le médecin. Le médecin voit que si on met tout le paquet, ça va faire très, très mal, d'accord? Les traitements, machin, etc. Mais on peut s'en sortir. On peut. La personne va s'en sortir. À l'un, il révèle ce qu'il faut faire. À l'autre, il lui dit rien. Ça veut dire qu'il y en a, les deux peut-être auraient pu être sauvés si ils avaient suivi le traitement très fort, très douloureux et très désagréable, mais vont s'en sortir. À un, on révèle ce qu'il faut faire pour s'en sortir, et à l'autre, on lui dit non, écoutez, je vous ai examiné, vous n'avez rien, vous. Alors, celui à qui on dit je vous ai examiné, vous n'avez rien, rentre chez lui. Il raconte ça à sa femme et à son mari. Oh, tu te rends compte, bon, Hachem, non, c'était un petit bobo de rien du tout. Mais par contre, l'autre, je te dis pas ce qu'il l'attend. Oh là 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 là, il a déjà commencé la première séance aujourd'hui. Oh là 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 là. Merci mon Dieu, j'ai rien. D'accord? Mais la maladie continue à évoluer. Et puis, quelques mois après, Itgadal, Itkadash. Très bien. Tandis que l'autre, il subit ce qu'il subit, mais il va s'en sortir. Auquel le médecin a fait un cadeau? À celui à qui on a dit non, tu n'as rien, ou à celui qui dit je te rentre dedans tout de suite? Comment? Celui qui est pris en main tout de suite. Donc si je prends conscience du fait, je parle à haute voix, mais essayons de réfléchir ensemble. Si je prends conscience du fait que nos fautes sont en train de nous détruire, après, je vais expliquer comment, très facilement. Nos fautes nous détruisent. Je vais expliquer tout de suite, d'accord? Comment nos fautes nous détruisent? Comment toutes les civilisations ont disparu? Comment tous les peuples disparaissent? Comment les empires sont enterrés les uns après les autres? Comment l'histoire du monde est le plus grand cimetière de peuples et de civilisations de la planète? Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous assistons à la disparition après 2000 ans de la civilisation européenne? Et un jour, on dira nos ancêtres, les Européens, etc. Pourquoi les mondes disparaissent? Pourquoi les peuples disparaissent? Pourquoi les religions disparaissent? Les situations disparaissent, pourquoi? Parce que Hachem ne leur révèle pas à temps qu'elles sont atteintes du cancer. Et donc, comme par définition, on ne peut pas vivre en bonne santé indéfiniment, ne serait-ce que mourir de vieillesse, quoi qu'il en soit, Et il y a un moment où la maladie prend le dessus. Mais comme jamais le médecin t'a pris en main, eh ben tu meurs. Pourquoi ? Parce que même si on te prend en main dans les maladies, il y en a une, de toute façon, qu'aucun médecin ne peut freiner, c'est la maladie qu'on appelle la vieillesse, l'usure. Tout d'un coup, il y a un peuple sur terre, Hachem décide que lui, on va l'aider à s'en sortir dans toutes ses maladies. Pas seulement les maladies, on pourrait dire, provoquées par l'existence, même la maladie la plus naturelle qui est l'usure normale d'une civilisation. Ça fait 3500 ans qu'on met les tefilines. Et on continue à les mettre avec la même joie, la même motivation, le même dévouement qu'il y a 3000 ans. Vous connaissez un peuple sur terre qui continue à faire avec le même attachement ce qu'il faisait il y a 3500 ans? Ben parce que les Français, quand ils disent nos ancêtres les Gaulois, ils les regardent avec fierté ou avec honte? Avec honte. Quand les Américains simplement disent nos ancêtres, les cow-boys, ils les regardent avec fierté ou avec beaucoup de distance? Seulement 350 ans. D'accord? Quand les Allemands disent nos ancêtres, les Germains, c'est avec fierté ou... Enfin, je ne sais pas, pour un Allemand normal, on sait ce que c'était les Germains, de vrais barbares. D'accord, très bien. Quand le monde, du manière générale, dit nos ancêtres, c'est sûr que... On voit plus ou moins quelqu'un qui se lève de son état singe. Quand nous, les Juifs, on dit nos ancêtres, les Hébreux, on lève la tête ou on la baisse? Vous connaissez beaucoup de peuples qui, quand ils disent nos ancêtres, ils lèvent la tête et ils disent si seulement on était à ce niveau-là, l'époque du roi David, l'époque de roi Salomon, l'époque de Moshe, l'époque... des Tanaïm, des Amoréens. Attention, je ne dis pas que c'était parfait, qu'ils sortaient tous de la cuisse de Jupiter, je ne dis pas ça. Mais globalement, on n'a pas honte de notre passé. Non. Donnons un autre exemple, parce que nous l'oublions jamais, parce que maintenant, évidemment, on est en plein coincé à l'intérieur de ce trou d'aiguille qui est le malheur ponctuel. Mais n'oublions pas aussi quelle génération on est. Vous connaissez dans l'histoire humaine un peuple né il y a 3500 ans qui a été, entre autres, parmi tout ce qui lui est arrivé, décimé aux quatre coins de la terre, qui a un vieux livre qui lui promet qu'un jour il reviendra sur sa terre, et qui aujourd'hui est revenu sur sa terre, revenu des quatre coins de la terre, et a reconstruit sa terre, et avec une telle rapidité, avec une telle puissance, qu'aujourd'hui tous les peuples rêvent à nouveau de nous faire disparaître, parce qu'ils savent qu'à ce rythme-là, dans 20 ans, on sera la seule et unique superpuissance sur terre, et c'est pour ça qu'ils essayent de nous freiner, parce qu'ils ont trop peur de devoir... être dominé économiquement, politiquement et socialement par des juifs, par des youpins. Donc, ça veut dire que notre histoire, elle défie toutes les normes et toutes les règles de la nature. Il n'y a pas de maladie mortelle chez nous, il n'y a même pas de vieillesse chez nous. Pourquoi ? Quelle est aujourd'hui la plus vieille, la plus jeune de toutes les vieilles nations ? C'est Israël. Non seulement on ne vieillit pas, mais dans notre histoire, plus on prend de l'âge et plus on se rajeunit. On est la plus jeune des nations, je parle puissantes, des nations puissantes, on est la plus jeune de la planète alors qu'on est la plus ancienne de toutes. C'est-à-dire que notre histoire fonctionne à l'extrême opposé des règles normales de la nature. Et pourquoi ? Parce qu'on a un médecin qui nous prend en main depuis notre naissance. Pas pour nous dire qu'on n'est pas malade. Bien sûr qu'on est malade, mais pour s'occuper de nous soigner. Alors maintenant, tout le problème de savoir comment tu vois ce qui t'arrive. Est-ce que tu le vois d'une certaine manière comme le prix à payer pour ne pas disparaître un jour comme tous les autres? Ou bien tu le prends comme c'est une punition pour nos fautes? Non, c'est pas une punition pour nos fautes. C'était ça le piège. C'est quoi? C'est une prise en charge pour nous soigner et nous guérir. C'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, c'est-à-dire, mais ça fait très mal. Mais il y a des traitements qui font effectivement très très mal. Il y a des traitements, effectivement, excusez-moi, tu perds tes cheveux, tu perds ta joie, tu perds ton sourire, tu perds tes forces, tu perds ton énergie. Mais on est en train de te sauver ou de te faire crever? On est en train de te sauver. Donc maintenant, toute la prise de conscience, elle est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui nous arrive dans notre histoire ? C'est sûr que c'est une prise de conscience qu'on ne peut pas avoir tous les jours et surtout pas peut-être dans une heure si l'eau allait nous, on apprend une mauvaise nouvelle. Mais quand on prend suffisamment de distance, on prend le recul que nos maîtres nous demandent. Regarde la grande image. Le peuple juif est véritablement, tu penses, le peuple qui a le pire lot de tous les peuples? Moi, je pense que si on regarde la grande image, vous savez pourquoi en vérité ils sont tous acharnés contre nous? Mais les seuls, je vais vous apporter une preuve là-dedans, les seuls qui sont capables d'analyser la grande image, et c'est ce qui les rend fous, c'est les nations précisément. Et c'est facile à comprendre. Parce que nous, comme on est prisonniers de la souffrance présente, on oublie la grande image. Mais eux, comme ce n'est pas eux qui souffrent, c'est nous. Mais eux, ils ont quand même toute la grande image. Et eux, ils n'ont pas oublié qu'il y a 67 ans, on sortait d'Auschwitz. 67 ans après, on parle d'une superpuissance, qualitativement parlant. Dans leurs critères à eux, ça les rend fous. Mais comment c'est possible? Eux, ils ont la grande image. Et donc, eux, ils se disent, mais c'est pas possible. Quoi, ce que leurs prophètes leur ont dit il y a plus de 3000 ans, et se réalise aujourd'hui? Il n'y a pas un mètre carré dans ce pays, il n'y a pas une grue qui est en train de construire. Comment c'est possible que le plus vieux des peuples puisse être en même temps le plus jeune de tous? Donc, eux, ils ont la grande image, ça les rend fous de jalousie. Comme je dis toujours, si j'avais été à leur place, j'aurais été un grand antisémite. Ben oui, parce que je veux dire, il faut les comprendre, vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le problème est comment tu vois la chose. Est-ce que tu vois ce qui t'arrive comme une punition à cause de tes fautes, ce qui est le langage, le discours interdit? Ou ce qui t'arrive, c'est une prise en charge de la Providence pour ne pas que tu sombres, tu t'oublies dans tes fautes? Parce que chez nous, il y a des messibotmines, mais il n'y en a pas chez les voisins. Alors pourquoi à Paris, qui est la capitale numéro un de toutes les messibotmines, pourquoi il n'y a pas des gens qui sont païens dans la rue? Parce que Hachem n'a pas l'intention de sauver la France de son cancer. La France va crever, elle disparaîtra. Et donc Hachem se fiche royalement des messibotmines qu'il y a à Paris. Mais comme Hachem n'a pas l'intention de voir Tel Aviv crever, eh bien qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous soigne. Mais c'est vrai que ça fait très mal. Donc maintenant, si on prend conscience de ça, automatiquement, c'est-à-dire qu'on a cette capacité de se reculer, de voir la grande image, au moins quand je reprends après un petit peu mes esprits, je me dis, mais mince alors. Mais ce qui arrive à ce peuple, ce qui le différencie de tous les autres, que nous, il nous arrive que des problèmes, est-ce que c'est sûr que c'est pour nous faire du mal? Résultat, faisons le bilan de tout ce qui nous est arrivé de mal jusqu'à aujourd'hui. Nous, on peut le faire aujourd'hui parce que nous, on a la sagesse de 3500 ans d'expérience. Allez, on fait le bilan de tout ce qui nous est arrivé. C'est la première fois qu'il y a des coups de couteau partout. Mais faisons le bilan de tout ce qui nous est arrivé. C'est dur au moment de le faire, mais faisons-le. Je vais me rendre compte, mais mince maître du monde, mais peut-être que sans tous ces coups de couteau, je ne serais plus là aujourd'hui pour en parler. On dirait aussi nos ancêtres, les Juifs, les Hébreux, comme on dit nos ancêtres, les Romains, comme un Italien, il dit nos ancêtres, les Romains, mais c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à voir avec les Romains, ni au niveau culture, ni au niveau mental, ni au niveau tradition, il n'a plus rien à voir. Même la langue italienne, ce n'est pas le latin de l'époque. Tandis que nous, l'hébreu d'aujourd'hui, c'est l'hébreu de nos pères, c'est l'hébreu de nos maîtres. Il disait Shulchan, on dit Shulchan. Mais on ne dit pas table en italien comme je pense qu'on dit table en latin. Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a d'énormes changements. Comme d'ailleurs le français d'aujourd'hui, l'ancien français. Vous savez, il y a souvent dans le... Bon, vous le voyez sans doute rarement, mais dans le Talmud, c'est rempli de commentaires de Rashi, où pour expliquer un mot, il dit, voilà comment on le dit en français ce mot-là. On préférait qu'il le dise en chinois, parce que quand il le dit en français, nous aujourd'hui, avec notre connaissance du français, on ne comprend pas du tout. L'ancien français n'est plus du tout compréhensible. Même chez nous, et même au niveau de l'hébreu, il y a des nuances, mais l'hébreu, très globalement, est resté le même. Ça veut dire que nous, encore une fois, si on a la grande image, on se rend compte que Kola Etsev, qu'effectivement, quand il dit que toute cette tristesse, si on sait la voir, elle devient le moteur de la joie. Alors évidemment, pas de la joie ponctuelle, maintenant, c'est pas qu'on va arriver à l'enterrement de X et de Y, qu'on va dire, il y a de la joie, il y a de la joie. C'est pas de ça qu'on parle. Mais sombrer dans le désespoir, dans la tristesse, Mes amis, s'il y a bien une génération qui ne peut plus, qui, elle, n'a pas le droit et n'aura aucune excuse si elle sombre dans la tristesse, dans le découragement, dans la panique, c'est bien la nôtre aujourd'hui. Après tout ce qu'Hachem nous a fait, on va se laisser aller en disant « et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» Effectivement, on n'a pas de réponse. Pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi si, etc. On n'a pas de réponse. Mais une chose, on est sûr. Ce prix que l'on paye est le prix de notre vie. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de sa vie, on paye pour vivre. Et on en est les témoins vivants. Et c'est ce qui rend fou les goïms. Parce qu'ils se rendent compte que ce peuple-là, plus tu le poignardes, et plus il est vivant. Je dirais presque, moi j'ai expliqué une fois, j'ai discuté avec un psychologue de haut niveau, qui est un de mes élèves. Et on discutait sur le phénomène, je vais vous dire, bon, c'est vrai, ça paraît peu importe, sur le phénomène, mais comment ils font ? Je veux dire, ils savent que dans 5 minutes, ils sont morts. D'accord ? Sauf s'ils tombent sur un juif idiot qui va dire, ah, j'ai tout fait pour qu'on ne me tue pas. Il y en a beaucoup chez lui. Voilà. Que Dieu leur pardonne, parce qu'ils sont en train de préparer le prochain attentat. Mais peu importe. Mais quand, en principe, ils tombent sur des juifs normaux, sur des humains, on ne le lâche pas une fois qu'il est entre nos mains. Pourquoi ? Parce que si tu le lâches, demain il sera libéré en échange de tel échange et il recommencera comme ils le font tous. Donc, beaucoup savent. Il y a cette image, vous avez sans doute vu la vidéo, porte de Shrem, où il se lève avec son couteau au milieu de 10 policiers et il en poignarde un. Il sait très bien que c'est fini. Par quoi il est motivé ?
Par la mort.
Alors, très bien. Alors, très bien, par la mort, par si. Alors, on peut dire, l'explication classique aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement fanatisés, ils sont tellement endoctrinés, etc., que finalement, et puis ils espèrent tous les 70 et machin. Bon, je veux bien, mais ça, c'est sans doute vrai aussi. Mais ça reste très France Dimanche comme explication. Bon, c'est la hauteur d'une explication du journal Le Monde, c'est-à-dire un journal lu par des nuls. Mais c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. J'ai 20 ans, j'ai 22 ans. La fille hier de 16 ans qui a poignardé, elle pouvait pas imaginer qu'elle allait simplement, après être désarmée, qu'on la laisserait tranquille, parce qu'elle a attaqué un endroit où tout le monde était armé. Elle pouvait, comme celui d'il y a deux jours, se faire tuer aussi. À 16 ans, on peut être à ce point endoctriné. Peut-être oui, peut-être non. Moi, j'y crois pas trop. Je dis pas que c'est simplement faux. Mais en vérité, il y a une explication qui est beaucoup, beaucoup plus simple. C'est ce qu'on appelle le suicide. C'est pas on se fait tuer ou on va. C'est quoi le phénomène du suicide ? C'est qu'on est tellement écœuré par la vie qu'on ne veut plus la voir. On ne veut plus la voir. Ça veut dire qu'en vérité, face aux Juifs, et surtout face à l'Israélien, ces gens sont tellement écœurés de voir la réalité de la vie florissante et bouillonnante qu'ils se suicident. Je préfère ne plus le voir. Mais comme je n'ai pas envie de mourir tout seul, j'en emporte un ou deux avec moi. Vous comprenez ? Bon, c'est un petit peu prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai dit ça à un psychologue, il a dit c'est absolument incroyable. Il m'a dit, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Vous comprenez ce que j'explique ? C'est pas pour tuer un juif, on va mourir. Non ! On est écœuré de voir ce peuple encore vivant. On ne peut plus le supporter, ce peuple. Comment lui, il est encore vivant ? Alors on préfère se donner la mort plutôt que de voir la vie.
Surtout qu'ils ont essayé de me tuer plusieurs fois.
Voilà. Mais comme si déjà je vais mourir, alors autant mourir en emportant un ou deux avec moi. Mais en vérité, ils ne sont pas en train d'aller tuer, ils sont en train de se tuer. Vous comprenez le phénomène ? Ils ne vont pas tuer, ils vont se tuer. Mais si déjà mourir, allez, ça ne fera pas de mal d'en prendre un avec moi. Comment ?
Tout ça, c'est inconscient. Ils ne sont pas assez intelligents pour ça.
Mais par définition, quelqu'un qui se suicide, ce n'est pas un acte intelligent. C'est un acte, justement, c'est un acte de désespoir tel que je suis tellement écœuré de la vie que je ne veux plus la voir. Et bien, c'est ce qui se passe. Ils sont tellement écœurés de voir, on pourrait dire, on ne dit pas le florissement, l'épanouissement d'Israël, que ça les dégoûte tellement qu'ils ne veulent plus le voir, ils se suicident. En se suicidant, ils emportent avec eux. Mais ce n'est pas un phénomène de sacrifice, c'est un phénomène de suicide. Et vous verrez qu'un jour, ça va être expliqué comme ça. En vérité, le kamikaze, ou je ne sais pas, le terroriste, peu importe, le mechabel, je ne sais pas comment on traduit en français, en vérité, il ne vient pas pour tuer, il vient pour se tuer. Mais comme il n'a pas envie de mourir seul, il en apporte avec lui. C'est ça le phénomène ici. C'est un phénomène que le monde ne peut pas encore comprendre, mais c'est le phénomène. Maintenant, ce phénomène, d'où je sais que c'est celui-là, parce que c'est ce que la Torah décrit au sujet d'Amalek. La Torah dit, c'est quoi Amalek? Il voit une marmite bouillante devant lui, et il voit que personne n'a le courage de s'approcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute dedans pour la refroidir. Tout le monde lui dit, mais espèce d'idiot, tu vas te brûler. Qu'est-ce qu'il répond? D'accord, moi je vais me brûler, mais le hika, c'est que quoi? C'est qu'elle se refroidisse. Ça veut dire, il va clairement pour se faire du mal. Mais c'est pas grave que je me fais du mal, pourquoi? Parce que de toute façon, au moins je vais refroidir là. Et ça marche. Parce qu'à chaque fois que l'un d'eux se suicide en emportant un de chez nous, eh bien il nous refroidit. Donc ça réussit.
C'est difficile parce que quand on assiste à quelque chose de mal et qu'on sait qu'Hachem nous prépare quelque chose de bien en retour, comment pour bien réagir? On est toujours un peu...
Parce que, encore une fois, on ne parle pas du réflexe sur le moment. Mais, malgré tout, je donnerai une nuance. Vous savez, je vous ai déjà souvent expliqué, il faut qu'on termine, je vous ai souvent expliqué quelque chose d'absolument incroyable, mais qui est testé, prouvé, scientifique par tous ceux qui le testent eux-mêmes. Quand on voit la souffrance de quelqu'un, et que nous, on n'est pas dans sa souffrance, nous, on sombre dans le désespoir, si on ne fait pas l'effort de comprendre ce qu'on explique aujourd'hui, parce que nous, on se projette dans sa souffrance, mais comme on n'y est pas, on est dedans sans ses forces. Mais celui qui est dans l'épreuve, au moment même où il rentre dans l'épreuve, il reçoit des forces inimaginables qui lui permettent de vivre l'épreuve d'une manière que celui qui est assis ne peut pas comprendre. Ce qui veut dire qu'en vérité, quelle est l'erreur que nous on commet? L'erreur que nous on commet, c'est qu'on veut ressentir le phénomène sans être concerné. Donc au lieu de se projeter dans sa souffrance, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je ne dis pas être insensible, qu'à Dieu ne plaise. Mais on devrait justement se dire, attention, il y a un piège. Ce que je suis en train de voir a pour but de m'affaiblir moi. Et encore un autre, et encore un autre, et la nation tout entière. Alors que celui qui est concerné ne vit peut-être pas la chose comme nous le ressentons. Et généralement, on le voit, je dis malheureusement, parce que malheureusement, on en côtoie trop des gens qui sont dans l'épreuve. Mais à chaque fois qu'on côtoie quelqu'un qui est dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'il ne comprend pas ce qu'on lui raconte. Il ne comprend pas ce qu'on lui raconte. Mais comment tu fais? Ça doit être dur, etc. De quel homme vous parlez? Lui-même ne sait même pas pourquoi il ne comprend pas, parce qu'il n'est pas conscient qu'il a subi une mutation. C'est les forces qu'Hachem lui envoie, qui font que d'une certaine manière son seul mérite c'est d'avoir accepté ses forces et de vivre avec. Mais d'un côté c'est pas ses forces à lui, c'est des forces qui viennent d'en haut. Ça c'est clair. Parce que Hachem n'envoie pas une épreuve à quelqu'un s'il lui envoie pas les forces pour. Donc, qu'est-ce que nous on devrait faire? C'est se poser la question, puisque Shlomo HaMelech dit « Bechol etzev yemuta ». C'est inconcevable, une tristesse qui ne débouche pas à la joie. Je lui dis à Shlomo, enfin Shlomo, tu te fiches de qui? Comment tu veux que je sois joyeux? Mais oui, pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de vous punir, les amis, on est en train de vous soigner. Et c'est pas pareil. Et regarde, toi, maintenant, adressons-nous à nous, ce qui s'est passé avant, j'en sais rien. Mais nous, notre génération, on a le droit de sombrer dans le désespoir. Les amis, je vais le dire d'une manière très crue, d'accord? La Shoah nous a pas mis à genoux, c'est quelques couteaux qui vont le faire. C'est sûr, c'est très dur de parler comme ça. Mais essayons de transformer la chose. Mais on est increvable. Vous pouvez monter et descendre. On vous crache au visage. Vous êtes de la miel ambulante, pourquoi? Vous allez nous faire tomber, mais on est increvable. On est le plus fort de tous les peuples. On est invincible, on est éternel, on est comme Dieu, indestructible. Et la preuve, c'est que ça vous rend fou de voir que ce peuple, depuis 3500 ans, est toujours là. Et que vous n'êtes pas capable de faire nulle part au monde ce que nous avons fait en 67 ans. Même les Américains n'auraient pas pu le faire en 67 ans. Traversé par autant de guerres, autant d'immigration, autant de problèmes sociaux, économiques, spirituels et moraux et politiques. Ça vous rend fou. Donc votre attaque contre nous est en fait le plus grand témoignage que vous ne supportez pas le fait qu'on soit à ce point vivant. Donc malheureusement, vous nous le rappelez avec des coups de couteau. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous êtes en train de signer? Que c'est nous les plus forts, c'est nous les meilleurs. À partir du moment où tu arrives à comprendre ça, à le vivre, ça ne va pas t'enlever la douleur du moment, car évidemment on est des humains, mais ça te permet d'avoir ce recul, de te dire mince alors, s'il y a bien un peuple que la tristesse ne pourra pas avoir, c'est bien nous, car nous sommes les témoins vivants de ce que finalement Shlomo Ameler, il y a des millénaires, témoignait pour nous, parce que quand il dit ça, c'est aux juifs qui s'adressent, pour nous les juifs, la tristesse est le moteur de la joie. Parce qu'on n'est pas en train de nous punir, on est en train de nous soigner. Mais, une dernière question, oui.
C'est pas une question, est-ce qu'on peut dire pour un
moment. Oui.
Je ne sais pas si c'est raconté ou pas. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du jeune de 15 ans.
Oui. Il y a une vidéo de quelqu'un jeune qui a eu une mort clinique qui vient et qui dit ce qu'il a vu, etc. Écoutez, il dit beaucoup de choses qui sont vraies. On n'a pas besoin d'avoir une mort clinique pour savoir que ce qu'il dit, je le savais avant lui et des milliers d'autres avant aussi. Ce qui est insupportable dans cette vidéo, que ça soit vrai ou pas, c'est ses choix, je veux dire, hyper, on pourrait dire. Sous-entendu, deux villes vont disparaître, Tel Aviv et Haïfa. On sent déjà toute l'idéologie perverse qui se cache derrière. Ceux qui croient en Dieu s'en sortiront, les autres disparaîtront. J'aime pas ce discours. C'est un discours haridi, classique, politisé. Ouais, vous savez, moi je suis très méfiant de nature. Moi, est-ce qu'on lui fait répéter ce qu'il devrait dire juste avant? Ça m'étonnerait pas non plus. Je ne suis pas à ce point naïf. Maintenant, encore une fois, je vais maintenant dire d'une autre manière. Nos maîtres disent il n'y a pas de rêve dans lequel il n'y a pas des résidus, des choses fausses. Ça veut dire on peut dire qu'il a eu une vision globale qui est juste, mais son éducation, son tempérament et sans doute le milieu dans lequel il vit lui ont causé, si tu veux, des interprétations voilà. Parce que je ne vois pas pourquoi Tel Aviv disparaîtrait, devrait sauter plus que certains quartiers religieux où il y a du Lashon Hara du matin au soir, les élèves de ce rabbi contre les élèves de ce rabbi, ou les représentants de tel clan politique contre ceux de l'autre clan politique. Je ne sais pas ce qui est le plus grave. Donc de quel droit tu te dis que Tel Aviv va disparaître, que Tel Aviv, il y a du Hilou Shabbat? Tu sais si la haine gratuite est plus grave ou moins grave que le Hilou Shabbat? Moi, personnellement, d'après les textes que j'ai, la haine gratuite est plus grave que le Hilou Shabbat. Donc si déjà une bombe atomique devrait tomber sur Bnei Brak plus que sur Tel Aviv. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'haine gratuite entre les écoles, les tendances, les rabbins, les rabbis, etc., etc. Maintenant que Dieu nous pardonne en train de faire du Lashon Hara. Je veux dire par là que si tu commences à critiquer, pourquoi tu choisis selon tes critères moraux à toi? Peut-être que c'est le contraire. Donc, maintenant, globalement, je veux dire ce qu'il dit, encore une fois, je n'ai pas besoin d'avoir une morgue pour le savoir. On est à vision humaine, parce que sans que c'est lui qui va décider. À vision humaine, on est au bord d'une troisième guerre mondiale. Tout se met en place. Il faut être fou pour ne pas le voir. Maintenant, sauf, c'est pas les Russes, ni Obama, ni les Syriens, ni l'Iran qui vont décider. C'est ce que lui décidera. Et ce que lui décidera, ça dépend de ce que nous allons faire. Donc, de toute façon, notre teshuvah à nous, et Dieu sait que la teshuvah du Ham Israël, c'est une belle teshuvah, car nous, bien sûr que nous faisons teshuvah. Notre teshuvah, bien évidemment, elle peut changer tous les décrets.
On est là pour sauver le monde, en fait.
Bien sûr. Et tu penses bien qu'une bombe atomique ne va pas tomber sur Tel Aviv. Non, mais n'importe quoi.
La solution, c'est de se mettre un peu au-dessus de notre petit monde à nous, en fait. C'est ça.
Voilà, il faut avoir la force, quand on traverse des périodes comme celle d'aujourd'hui, de prendre du recul, d'avoir la grande image. Maintenant, pour les juifs qui étaient dans les Mélas ou dans les Shtetl, c'était difficile d'avoir la grande image. Mais pour nous, aujourd'hui, la grande image, elle est devant nos yeux. Donc on ne peut pas se laisser détruire par des cauchemars ponctuels, parce que malgré tout, le rêve est magnifique. Et s'il y a des petits points noirs, ils ne peuvent pas entacher toute la grande image. Amen. Vechénias.